RFI 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel. Le journal, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Et la une ce matin, cette campagne en RDC pour convaincre autour de l'idée d'une révision constitutionnelle, campagne débutée par le parti présidentiel, l'UDPS. Le procès de Charles Onana en France ensuite. Hier, la procureure n'a requis aucune peine contre l'auteur franco-camerounais poursuivi pour contestation du crime de génocide. L'opposition de Centrafrique en conférence de presse hier à Bangui. La mafia des hydrocarbures dénoncée, tout comme le recrutement de Centrafricains par l'ex-groupe Wagner. Et puis, la grand-messe de l'environnement qui se prépare, la COP29, ce sera le mois prochain en Azerbaïdjan. Et en attendant, différentes sociétés civiles se mobilisent pour faire entendre leur voix. C'est le cas du Sénégal à la Tanzanie, on le verra dans ce journal. L'objectif est plutôt clair donc pour le parti présidentiel de RDC, convaincre sur le bien fondé et la légitimité selon lui d'une réforme de la Constitution. Et pour ce faire, le parti de Félix Tshisekedi, l'UDPS, a donc lancé une campagne hier. Dans une circulaire, le secrétaire général Augustin Kabouya appelle les différentes instances de la formation à mobiliser leur base sur le terrain. C'est ainsi une opération séduction qui se dessine, Passion Ligaudi.
Augustin Kabouya ne mâche pas ses mots. Il souhaite que chaque structure de l'UDPS s'implique pleinement dans ce qu'il appelle une mission de sensibilisation et de conscientisation. Dans sa circulaire, le secrétaire général ne s'adresse pas uniquement aux leaders provinciaux, mais il descend jusqu'aux plus petites cellules du parti. Augustin Kabouya estime que la constitution de 2006, adoptée alors que l'UDPS avait boycotté le référendum, est devenue obsolète sur plusieurs aspects. Selon lui, elle ne reflète plus les aspirations du peuple congolais. Augustin Kabouya va même plus loin en qualifiant cette initiative des promesses électorales de l'UDPS. Il rappelle que son leader historique, Étienne Tshisekedi, avait recommandé cette révision constitutionnelle et Augustin Kabouya considère ce projet comme un véritable testament politique. Dans cette optique, il prévoit de parcourir le pays pour soutenir cette campagne, rencontrer les membres du parti et assurer ce qu'il appelle un devoir de mémoire envers Étienne Tshisekedi. La démarche d'une révision constitutionnelle suscite toujours des vives critiques de la part de l'opposition congolaise. Passion Ligaudi, Kinshasa, RFI.
Cinquième rencontre du genre organisée cette année dans le cadre de ce qu'on appelle le processus de Luanda, c'est-à-dire sous la médiation angolaise. Les ministres des Affaires étrangères de RDC et du Rwanda doivent normalement se retrouver aujourd'hui en Angola. Il s'agit ici bien sûr de mettre un terme au conflit entre les deux voisins, mais la semaine dernière encore, Kinshasa et Kigali s'accusaient mutuellement d'être à l'origine de blocages. En tout cas, ce processus de Luanda reste l'option diplomatique privilégiée à ce jour. Le nouvel envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs l'a notamment réaffirmé lors d'un déplacement d'abord à Kinshasa, où un entretien avec le président Tshisekedi a finalement été annulé. Johan Bergstam, qui s'est ensuite rendu dans la foulée à Kigali, où il a été reçu hier ici en revanche par le président Kagame. Visite au Rwanda qui doit pour lui se poursuivre aujourd'hui. Nous en venons maintenant aux débats qui sont désormais refermés au tribunal correctionnel de Paris, où la procureure n'a pas requis de peine hier à l'encontre de Charles Onana. Elle laisse le sort du journaliste et écrivain franco-marocain à la libre appréciation de la cour. Lui qui est poursuivi pour du franco-camerounais à la libre appréciation de la cour. Lui qui est poursuivi pour contestation du crime de génocide. Charles Onana a plaidé la relaxe, mais la procureure a tout de même accusé l'auteur du livre « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise » publié en 2019 d'avoir clairement dépassé les limites de la liberté d'expression. Florence Maurice. Il aurait, selon les mots utilisés, minoré et banalisé l'existence du génocide contre les Tutsis.
Selon la procureure, plusieurs extraits du livre de Charles Onana constituent bien une négation abrupte, frontale et sans aucun détour du génocide. L'accusé, lui, s'en est défendu jusqu'au bout, y compris à la sortie de l'audience devant ses partisans.
Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. La destruction de l'enquête du juge Bruguière, il a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas.
Pour Maître Baudouin, avocat de la FIDH, ces propos sont une manœuvre pour détourner l'attention du réel objet du procès.
Charles Onana a constamment essayé de ne pas évoquer la réalité des reproches qui lui sont faits dans les propos tenus, c'est-à-dire la négation du génocide. En revanche, il nous fait reproche de ne pas tenir compte des violations des droits de l'homme commises par le FPR et le régime de Kagame. Bien évidemment, nous combattons les violations des droits de l'homme massives commises par ce régime aujourd'hui, mais simplement, ce n'est pas le même sujet.
La décision des juges est attendue le 9 décembre prochain.
Les explications de Florence Maurice. Un rapport qui continue de faire couler beaucoup d'encre en Centrafrique. Le récent rapport au vitriol signé du groupe de travail de la société civile qui dénonçait une vraie mafia dominant le secteur des hydrocarbures dans le pays. Un argumentaire repris presque mot à mot hier par le Bloc républicain pour la défense de la Constitution. Le BRDC, qui regroupe les principaux partis de l'opposition centrafricaine et qui donnait hier une conférence de presse à Bangui. Sur la table également, il y avait une question qui agite les réseaux sociaux en ce moment, celle sur le recrutement de ressortissants centrafricains par l'African Corps, le successeur du groupe russe Wagner. À Bangui, compte rendu de ce point presse avec Rolf-Steve Domialeux.
Le Bloc républicain pour la défense de la Constitution soutient les conclusions du GTSC. Dans un rapport publié au début du mois, le groupe de travail de la société civile a dénoncé la gestion opaque des produits pétroliers en Centrafrique en qualifiant d'illégale l'attribution d'un monopole à l'entreprise camerounaise Neptune pour l'importation et la commercialisation des carburants. Maître Nicolas Tiangai est membre du BRDC.
Le ministre de l'énergie, on répond argument contre argument. Qu'est-ce que nous disons au niveau de l'opposition démocratique? Lorsque ce pétrole-là arrive en Centrafrique, une bonne partie des ressources sont partagées entre trois personnes. Un petit groupe d'individus s'enrichissent sur le dos des Centrafricains.
Le BRDC a également commenté le recrutement et le transfert des jeunes Centrafricains qui seraient organisés par le groupe Wagner pour aller combattre aux côtés des forces russes en Ukraine. Ces révélations suscitent l'indignation de Martin Ziguele, le porte-parole du BRDC.
Ces compatriotes ainsi largués sont utilisés comme des éclaireurs dans le conflit russo-ukrainien et n'ont aucun espoir de rentrer un jour vivant au pays, retrouver leur famille. Le Bloc républicain pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016 s'indigne et exige du pouvoir des explications.
Le gouvernement centrafricain assure que ces informations de recrutement de jeunes est fausse. Démenti également au sujet des hydrocarbures. Le rapport du GTSC contient trop de contre-vérités selon le ministre centrafricain de l'énergie. Rolf-Esteve Doumerleux, Bangui, RFI.
Un nouveau tour de vis de la haute autorité des médias au Tchad. Après avoir suspendu une trentaine de médias, l'organisme public vient d'annoncer aux nombreux médias en ligne qu'il leur est désormais interdit de faire des vidéos ou des contenus radio. Ces médias doivent à la place s'en tenir à de simples papiers écrits, accompagnés seulement de photos d'illustrations, conformément à ce que prévoit officiellement leur cahier des charges. Mais l'AMET, l'association des médias en ligne du Tchad, se dit choquée par cette décision. Esdras Dikoumana, elle intervient à quelques semaines des élections législatives prévues fin décembre.
La MET, qui regroupe une trentaine de médias tchadiens en ligne, est vent debout contre une décision qu'elle qualifie de hors-sol et de totalement rétrograde et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs au monde selon son président. Cela dénote, dit-il, une volonté de museler la presse en ligne la plus dynamique du pays. À 3 mois des législatives et des locales au Tchad, le président de la MET, Bello Bakary.
La haute autorité des médias nous montre chaque jour qui passe qu'ils veulent brimer les médias en ligne. On est à la veille d'une élection et une décision pareille tombe. C'est que la Hamas veut tout simplement contrôler la presse. Ça veut dire qu'il y a danger et nous, on ne se laissera pas faire.
Faux a réagi le président de la Hamas qui assure être dans son rôle en faisant appliquer les dispositions de la loi. Pour mettre fin, explique-t-il, à la confusion qui règne aujourd'hui dans le secteur des médias en ligne. Une anarchie derrière laquelle s'abritent certains pour diffuser des messages de haine, Abdraman Barka.
Motivation politique. Est-ce qu'on a ciblé des médias précis? Est-ce que c'est la loi ou ce n'est pas la loi? Lorsqu'ils font des déclarations de parution, ils précisent la langue même de publication. Nous, on les rappelle tout simplement à respecter ces engagements-là. On ne peut pas venir déclarer un journal et aller faire de la télévision. Aussi simple que cela. Je les appelle à leur responsabilité plutôt qu'à des tergiversations.
Un message qui ne convainc pas la MET, qui se dit ciblée puisque les médias publics ne sont pas concernés par cette décision. Vous n'avez pas les mêmes missions que la presse publique, a rétorqué le président de la Hamas.
Esdras Dikoumana, une délégation de l'Union africaine en Libye depuis hier et pour deux jours, dirigée par le président en exercice de l'Union africaine, le Mauritanien Mohamed Oulcher El Razouani, hier à Tripoli, aujourd'hui normalement à Benghazi, pour tenter de relancer le processus de réconciliation libyen. Mais la Libye, aujourd'hui, est-elle encore une menace pour les pays du Sahel, comme elle a longtemps été perçue ? Nicolas Sûr a posé cette question dans Afrique Midi à Jalel Erchaoui, chercheur spécialiste au Royal United Service Institute.
J'observe beaucoup le sud libyen. Le sud libyen est en train de se détériorer d'une manière lente. C'est à cause de l'Afrique subsaharienne. Donc cette narration qui est statique, qui n'a pas changé, qui n'a pas été mise à jour, où l'Afrique subsaharienne se plaint de la déstabilisation occidentale de Tripoli, c'est pas quelque chose qui marche d'une manière omniprésente à travers le temps. L'histoire bouge. En ce moment, par exemple, l'extrémisme islamique est très très fort au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et il est quasiment absent en Libye. Et si la situation se dégrade en Libye dans les mois à venir, ce sera à cause de l'Afrique subsaharienne. Donc le fait que l'Occident est toujours le méchant qui a provoqué une déstabilisation qui, d'une manière constante, va toujours du nord vers le sud, c'est quelque chose de faux quand on observe les faits d'une manière objective. Par contre, au niveau de la narration politique, ce storytelling n'a jamais changé dans la bouche des dirigeants subsahariens depuis 2011. C'est une espèce de disque rayé qui ne tient pas compte des faits géographiques ou des faits politiques sur le terrain.
L'analyse du chercheur Jalel Erchaoui. À un mois de la COP29 prévue en Azerbaïdjan, le Climate Justice Camp se refermait hier en Tanzanie. 300 jeunes venus du monde pour faire entendre la voix du continent, Elodie Goulesque.
C'est à quelques kilomètres d'Arusha, au milieu d'une végétation luxuriante où des singes sautent d'arbre en arbre, que Meralné, originaire de l'île de Bonaire dans les Caraïbes, est en train de peindre. Une façon pour cet activiste du climat de décompresser.
Quand vous êtes activiste et que vous êtes investi dans la justice climatique et que vous vous battez, ça peut parfois être vraiment démoralisant.
Un espace de bien-être dédié aux plus de 300 participants du Climate Justice Camp. Leur point commun, tous sont des jeunes venus partager l'histoire de leur vie, souvent brutalement troublée par les effets du réchauffement climatique. C'est le cas de Varani Sese, venu des îles Fidji et qui témoigne la gorge serrée.
Notre île est littéralement en train de couler. C'est catastrophique, parce que pour nous, nos océans, nos terres, ce ne sont pas que des choses physiques, c'est aussi spirituel et culturel.
Le camp pour la justice climatique en est à sa troisième édition. Le but, selon l'un de ses fondateurs, Agustin Maggio, est de rassembler les jeunes les plus impactés par le changement climatique.
Nous essayons de créer beaucoup d'espace pour que tout le monde s'écoute et crée des liens forts, pour qu'ils apprennent les uns des autres et qu'ils agissent ensemble.
Prochaine étape, la COP29 en Azerbaïdjan, où ces jeunes qui n'ont d'autre choix que de lutter tenteront de faire entendre leur voix. Elodie Goulesque, Arusha, RFI.
Arusha, où il est 8h passées de 43 minutes. Votre matinale continue avec Gaëtan Plenet.